Bien, bonjour. Merci d'abord à Michel Ledru et à Sol Civilisation de m'avoir invité. Voilà, après les deux interventions remarquables que je viens d'entendre, je vais vous ramener un peu au ras du sol, si j'ose dire, et même un peu en dessous, parce que je passe mon temps dans des marais salants, donc en dessous du niveau de la mer, et sur l'exploitation d'huîtres de mon épouse, c'est-à-dire dans la mer. Donc voilà, là on va revenir très très dans du concret. Enfin, du concret qui va, j'espère, donner l'occasion d'alimenter d'illustrer ce qui vient d'être dit. Et Dominique a parlé du sel de Guérande et de la coopérative, mais vous m'aviez demandé aussi d'aborder le sujet des sites remarquables du goût, hein, qui est donc une association dont je vais commencer par vous parler avant de focaliser sur le problème du sel. Bien, donc effectivement... J'ai préparé un petit support, ne serait-ce que déjà pour ne pas trop m'y perdre dans ces deux exemples. Et puis en même temps, ça vous permettra d'avoir aussi de focaliser sur les points qui m'ont paru importants par rapport à la demande qui a été formulée. Moi, quand j'ai accepté, ce qui m'est revenu en tête, c'est des slogans un peu ringards comme « vivre et travailler au pays », penser globalement, agir localement. Voilà. Et je me dis qu'en fait, on continue à être... à tourner autour des mêmes sujets et avec effectivement un éclairage de plus en plus ciblé. Et ce que vient de dire Bernard Pecker m'a parlé. Hein, et j'espère que tout à l'heure dans le débat, on pourra revenir sur certains points qui sont effectivement très importants. Donc les sites remarquables du goût, pour commencer, je vous mets une carte simplement pour que vous visualisiez ce que c'est. Hein, il y en a une centaine en France et c'est une histoire qui a commencé en 1995, à l'initiative de quatre ministères. Hein, quatre ministères qui sont le ministère de l'Agriculture, qui était chargé d'identifier le produit, le ministère de la Culture pour le patrimoine, celui de l'Environnement à l'époque, qui est devenu Écologie, pour effectivement toute la biodiversité, et puis, le lien entre tout ça, qui est le tourisme qui est fait à partir du goût. Hein, c'est le fil conducteur dont on vient de parler. Dans ce cas-là, c'est le goût. Comment, à partir du goût d'un produit, on va pouvoir décliner et retrouver tout ce qui fait la spécificité d'un territoire. Donc vous voyez bien à la lecture de quelques lieux de cette carte, qu'on est vraiment dans un... le concept au départ, c'est de créer, enfin c'est pas de créer, c'est de profiter de la réaction spontanée que l'on a. Si je vous dis Marraine Oléron, c'est même pas la peine que je vous parle du produit, vous le connaissez. Beaufort, c'est la même chose. Saint-Émilion, c'est la même chose. Ça, vous en avez un grand nombre ici. Donc on a déjà intégré effectivement un certain nombre de produits. Et derrière ces produits, c'est tout un territoire que l'on a déjà assimilé en même temps qu'on l'a bu ou qu'on l'a mangé. Et cette idée des sites remarquables du goût, bien, c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est de profiter de cette assimilation pour recréer une dynamique locale un peu plus transversale, alors que très souvent, il y a eu des ruptures et des cloisonnements entre tout cela. Donc un site remarquable du goût, c'est un produit de qualité. Je passe vite. C'est un produit de qualité qui se mange, qui se boit, qui est emblématique de son territoire et qui bénéficie d'une notoriété. Hein, c'est important. Je vous laisse lire, je ne vais pas relire ce qu'il y a là. Et bien entendu, l'objectif, c'est de faire connaître au grand public le lien qu'il y a entre le territoire et le produit qui l'a fait connaître. Alors c'est une opportunité qui a été effectivement saisie par les sites qui ont été distingués, parce qu'en fait cette reconnaissance, cet agrément des ministères, c'est quelque chose qui est arrivé de manière extrêmement verticale. On a reçu dans les territoires un jour une invitation au ministère de la Culture, et elle nous a dit « voilà, vous êtes site remarquable du goût, venez prendre possession d'une magnifique plaque que vous pourrez fixer à l'entrée de votre territoire ». Et on s'est dit, il y a quelques-uns, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? C'est bien, on est très très flattés. On avait déjà été, c'était le cas de Guérande, listé dans les labels paysages. Et d'ailleurs, on retrouve au départ de ce concept des sites remarquables du goût, cette histoire du label paysage. Et donc on a créé, avec le concours des ministères et du Conseil national des arts culinaires à l'époque, qui a disparu depuis, on a donc créé une association nationale avec comme objectif de faire vivre ces sites remarquables du goût et donc d'établir des liens entre nous et de créer un réseau pour essayer de voir comment certains avaient résolu des problèmes que d'autres ne parvenaient pas à résoudre. Par exemple, comment on faisait à Guérande pour accueillir un nombre croissant de visiteurs et maîtriser l'afflux des visiteurs pour éviter de porter préjudice à la biodiversité sur le site, et puis comment d'autres sites, eux, cherchent plutôt à faire venir un nombre beaucoup plus important de touristes parce qu'ils étaient en situation de désertification, et donc ils cherchaient à obtenir un supplément de revenus grâce à l'attrait de leurs produits. Donc ce réseau s'est mis en place et a fonctionné pendant un certain nombre d'années, surtout autour de la réflexion de la maîtrise de l'accueil, c'est-à-dire qu'on a rédigé ensemble un guide méthodologique de la mise en tourisme des sites, hein, qui donnait des recettes en quelque sorte pour répondre à un certain nombre de questions des acteurs du territoire. Et puis, c'était aussi pour nous un espace de dialogue important, parce que ça permettait sur les territoires de décloisonner un certain nombre de dynamiques. Pour revenir à l'exemple de Guérande, sur lequel je m'étendrai tout à l'heure, mais sur cette fois-ci en tant que producteur de sel, eh bien, il y avait, et j'aurai l'occasion d'y revenir, un conflit extrêmement vif entre les producteurs et les acteurs du tourisme, puisqu'il y avait ce conflit économique sur le terrain, sur le foncier. C'est-à-dire que le tourisme ne pouvait se développer qu'en empiétant sur le territoire des producteurs de sel. Et donc la situation était extrêmement conflictuelle. Et j'y reviendrai tout à l'heure, et vous verrez que les choses ont évolué lentement. Mais ce site remarquable du goût, ce concept-là, était l'occasion pour nous, effectivement, d'établir un dialogue avec des adversaires qui vont devenir un peu plus tard des partenaires. Mais ça a commencé de manière extrêmement, extrêmement conflictuelle. Alors, du terroir au territoire, je sais que tout à l'heure, vous avez parlé de terroir, et c'est vrai que les terroirs sont des espaces qui, au fil des années, moi j'ai plutôt perçu cette étiquette terroir comme de plus en plus un handicap, parce qu'il y a la banalisation des terroirs, avec le développement de multiples produits de terroir qui souvent n'emportent que le nom ou l'image sur les étiquettes, mais qui ne sont pas de véritables produits de terroir, est devenu un handicap. Donc là encore, les sites remarquables du goût qui permettaient de refaire le lien entre le produit et le patrimoine qu'il y a autour, c'est un outil pour redonner du sens à nos produits et en même temps le faire découvrir aux personnes qui viennent visiter. Alors, on a créé un site internet, hein, vous avez les coordonnées là, vous pourrez aller vous informer plus amplement si vous le souhaitez. Et puis, on a, dès 2003, mis en place un processus de formation, parce qu'un des premiers constats que l'on a fait en discutant entre nous, quand je dis entre nous, c'est entre sites, sur le territoire, sur les territoires, eh bien, on s'est aperçu que ce qui nous manquait énormément, c'était le savoir-faire pour communiquer avec les visiteurs, comment fait-on pour faire comprendre ce lien à des visiteurs? Comment fait-on quand on est viticulteur, paludier, céréalier, pour faire comprendre le lien qu'il y a entre l'activité agricole et le patrimoine qu'il y a autour, c'est-à-dire le paysage? Alors c'est plus facile quand c'est une vigne ou des marais salants, mais ce n'est pas toujours facile de faire ce lien. Et puis, le goût. Hein, puisqu'on est site remarquable du goût, tout le monde sait ce que c'est que le goût, mais encore faut-il, là encore, apprendre, hein, à communiquer sur le goût. Et on s'aperçoit, on en a fait l'expérience cruelle, nous, dans le sel, mais comment fait-on pour faire déguster du sel? En général, c'est pas si simple que ça. Voilà. Et trouver le vocabulaire qui convient, trouver les exemples, faire des tests organoleptiques, etc., c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est plus festif quand on déguste du vin. Avec le sel, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Je sais que certains d'entre vous vont aller au Japon bientôt. Eh bien, vous allez voir qu'au Japon, il y a un homme très, très, très qualifié en sel qui est capable de reconnaître l'origine géographique d'une soixantaine de sels différents. J'avoue que j'en suis très loin. Voilà. Voilà. En 2004, on a aussi financé la parution d'un livre, hein, qui est toujours dans le commerce et qui permet donc, qui a deux pages sur chaque site et qui permet de découvrir aussi ce que sont les sites remarquables du goût. Alors sur le plan économique, c'est quelque chose qui existe, bien sûr, puisque, vous voyez, 2 millions de visiteurs dans ce qu'on appelle les vitrines des sites. Alors, bien entendu, ce qui est très révélateur là, c'est qu'il y a des vitrines des sites, et c'est un des problèmes de notre réseau, là où il y a des entreprises qui sont des entreprises leaders, et qui ont une démarche et une stratégie vis-à-vis de leurs produits. C'est pour ça qu'on trouve bien Roquefort, Chartreuse, le Comté, voilà, Terre de Sel, le Cassisium, le Aliotica, Guilvinec. Et ce sont des lieux qui sont portés par des entreprises. Et c'est un point qui est important pour nous, parce que dans le réseau des sites, il n'y a pas que des entreprises. Il y a effectivement de nombreux sites qui sont portés par une personne parfois, par un directeur d'office de tourisme. Voilà. Et là où il y a des entreprises, entre guillemets, florissantes, le site fonctionne beaucoup mieux. Et dans le transfert de savoir que l'on essaie de mettre en place entre les sites, eh bien, c'est un des points qui nous soucie beaucoup aujourd'hui. Alors, une situation qui est contrastée aujourd'hui parce que beaucoup, enfin, on a beaucoup de difficultés à mobiliser les acteurs, et ça vient de, j'irais, de l'origine de la mise en place du réseau et du concept. Lorsque on nous a dit en 95, vous êtes site remarquable du goût, ben, ça arrivait en général, ça avait été décidé à Paris, et c'est arrivé dans une mairie, dans un office de tourisme, dans une entreprise, chez un producteur, chez un acteur qui était identifié par le comité régional du tourisme. Et quelquefois, c'est resté totalement inactif. Quelquefois, ça a été le cas à Marennes avec les huîtres, il y a un producteur qui s'est dit « chic, je vais réussir à me trouver ma petite niche de marché, et donc je vais sillonner les salons des sites remarquables du goût, mais je, surtout, j'en parle pas à mes collègues, et je ne partage pas cela. » Donc on a des sites qui ont pas du tout, qui ont été, on est passé à côté de l'objectif. Ça, c'est un point important. Donc, avec ce constat de difficulté que l'on avait à avancer ensemble vers une meilleure animation des territoires grâce à ce concept des sites, on a, en 2006, nous n'avons pas, les ministères, de nouveau, se sont dit, l'idée est bonne, il y a des retours passionnants, mais il y a aussi des retours négatifs, donc on va commander un audit de la situation, de manière à voir comment on peut améliorer les choses dans ce réseau qui était toujours aussi apprécié de ceux qui en avaient connaissance. Et en 2006, on a passé un contrat de 3 ans avec les ministères, et il se trouve que la personne qui, à l'époque, a été chargée par les ministères de faire l'audit, a fait le choix, à la suite de l'audit, d'abandonner son activité de consultante et a pris la responsabilité de la mise en place de cette stratégie qu'elle avait décrite. Et donc, elle est passée de la théorie à la pratique avec nous, et elle s'appelle Muriel Bousquet. Elle pensait être là aujourd'hui, et puis en fait, elle n'a pas pu se déplacer. Je l'ai appris hier soir. Et elle nous a aidés, cette fois-ci, à professionnaliser l'approche touristique, puisque c'était sa spécialité, le tourisme de terroir et le tourisme de territoire. Et pendant 3 ans, donc, on a travaillé à structurer et à mettre en place des outils pour arriver à de meilleurs résultats en termes de diffusion de ce concept. En tant que président de cette association depuis sa création, moi, j'avais une grande difficulté, c'est qu'on était très, très souvent contacté par des journalistes qui avaient eu connaissance des sites remarquables du goût et qui voulaient absolument communiquer, parce que ça leur paraissait passionnant. Et je freinais des cas de fer systématiquement en disant non, surtout pas, parce qu'aujourd'hui, il y a une liste des sites remarquables du goût, et vous avez vu la carte, mais si vous y allez, si on vous y envoyait des visiteurs, je ne suis pas sûr qu'ils soient bien accueillis, et surtout, il y a de fortes chances, dans 80% des cas, qu'ils ne trouvent pas l'interlocuteur capable de leur expliquer ce qu'est le lien entre le produit et le territoire. Donc, on a freiné longtemps, et en attendant d'avoir, effectivement, dans un plus grand nombre de sites possible, une véritable pédagogie autour du produit pour que les visiteurs repartent en ayant appris quelque chose et non pas en ayant seulement consommé le produit. Donc, on s'est engagé vis-à-vis des ministères à transformer l'association en fédération d'associations locales pour obliger, là encore, dans chaque territoire, à ce qu'il n'y ait pas une personne ou un seul segment de personnes, ou que des producteurs, ou que des entreprises du tourisme, ou seulement un lieu patrimonial. L'obligation est faite aujourd'hui à tous les sites d'avoir une association locale, de manière à gérer ensemble l'ensemble du concept, c'est-à-dire qu'il doit y avoir systématiquement des acteurs de la production, du tourisme, de la culture et de l'écologie. Et puis, on a mis en place une démarche de progrès avec un organisme de certification qui vient constater que les engagements sont bien tenus et qui permet d'avoir une pédagogie de progrès avec des objectifs, du contrôle et ensuite une adaptation de la stratégie dans chacun des sites. Donc on a des résultats grâce à ces 3 années de structuration et financée en partie par l'Europe. Vous l'avez vu, je ne l'ai pas dit, mais je pense que c'était écrit. Ce travail-là a été financé par l'Equal, alors ça a été parfait, sauf que après ça s'est gâté un peu, je vais y venir, mais on a eu des résultats quand même plutôt encourageants, avec une grande curiosité de la part des acteurs locaux qui ont manifesté d'une manière extrêmement forte le besoin et de formation et de structuration. Et puis il y a eu un certain nombre d'émergences régionales, par exemple dans le Massif central, il y a eu entre les différents sites un tourisme de réseau qui s'est mis en place de manière à ce que les visiteurs puissent aller de l'un à l'autre et comme ça de découvrir la richesse de différents territoires dans un espace assez proche. On a établi des partenariats assez nombreux et fructueux, par exemple avec les parcs naturels régionaux, puisqu'on retrouve un certain nombre de sites qui sont ou en totalité ou en partie dans des parcs naturels régionaux, avec les Gîtes de France, avec la Fédération des écomusées. Voilà, tous ces réseaux ont essayé de se connecter pour faire en sorte de faire vivre au mieux chacun leurs concepts et atteindre leurs objectifs. Et quand on a eu affaire à des opérateurs du tourisme privé, parce qu'encore une fois, quand on parle de tourisme, on parle d'économie, donc il faut qu'il y ait quelque part un intermédiaire entre celui qui cherche à découvrir une région et ceux qui sont capables de leur donner des explications. Et on s'est aperçu qu'il fallait, là aussi c'est grâce au travail de Muriel Bousquet, elle nous a aidé à construire des modules qui ont un gros avantage, c'est qu'ils peuvent être piqués les uns ou les autres, ou la totalité. Parce que sur certains sites, il est possible de faire des dégustations systématiquement. D'autres, c'est plus compliqué. Des balades, des cours de cuisine. Donc voilà, il y a un certain nombre de modules. Il y a une sorte de boîte à outils qui a été mise en place et qui permet au site de proposer ensuite à des opérateurs touristiques, des tour opérateurs, comme on dit, de leur proposer des produits, tout simplement, avec quelque chose de déjà construit et quelque chose qui fonctionne. Alors là, j'en ai mis 2 ou 3, je crois, mais sur le site, vous avez à chaque fois une déclinaison de chacun de ces modules. Là, il s'agit de balades, des cours de cuisine. Et puis, il y a des fêtes et manifestations dans tous les sites. Ça, c'est un point qui est général. Il n'y a pas de site remarquable et il n'y a pas de produit remarquable sans qu'il y ait une fête. Une fête des producteurs, je vais la semaine prochaine à Châteauneuf-du-Pape, qui est un des sites remarquables du goût, eh bien il y a le banc des vendanges qui est l'occasion d'une fête. Et c'est à chaque fois, bien entendu, là il y a un lien, Châteauneuf-du-Pape la semaine prochaine, c'est à la fois le banc des vendanges et l'université des sites remarquables du goût, et c'est l'occasion de faire le lien entre le produit et la découverte du territoire. On vient de vivre, enfin c'est presque fini, 2 années difficiles, je l'ai dit tout à l'heure, parce que l'association, après le contrat qu'on a passé de 2006 à 2008, inclus avec les ministères, eh bien on a eu deux soucis, un prévu, l'autre imprévu. Le prévu, c'était que Muriel Bousquet nous quitte à la fin de 2008, parce que en fait, elle voulait se consacrer, elle le fait, je crois, à cette fois-ci une mise en place interréseau avec une association qui est basée à Clermont-Ferrand, qui est Source. Et malheureusement, elle n'a fait qu'un court passage, mais en tout cas, c'était son intention et c'était un accord qu'on avait passé entre nous. Et puis, on avait une secrétaire qui était toujours très pratique, une secrétaire qui est là pour répondre au téléphone, pour orienter, pour faire les dossiers, les expédier. Et puis, pour des raisons personnelles, et familiale a dû déménager, donc voilà. Et en même temps, eh bien, vous savez, les projets européens, et les financements européens, c'est parfait, mais faut savoir, enfin, vous le savez certainement bien comme moi et sans doute mieux que moi, il faut, lorsqu'on s'engage dans des projets avec des financements européens, avoir les reins solides, parce que l'argent vient souvent très tard. Voilà. Donc là, on a vécu 2 ans avant d'attendre le paiement des aides européennes, et ce qui nous a mis dans une situation de trésorerie extrêmement délicate, et comme on n'avait pas de fonds propres, eh bien, voilà, et que les sites n'ont pas voulu mettre la main à la poche pour la plupart, eh bien, on a 2 années un petit peu de latence avec pas de personnel. Et on, voilà, vous savez qu'une association, c'est bien, hein, mais il y a beaucoup d'énergie dans les membres et dans les conseils d'administration, mais quand il n'y a pas un pivot permanent, ça devient compliqué. Donc on est en train de sortir de cette phase, puisqu'il y a une embauche en cours pour une animatrice ou un animateur d'ailleurs national de nouveau, qui devrait être concrétisé avant la fin du mois. Et donc on a enregistré, mais c'est intéressant, il ne faut pas dire que des choses positives, on a enregistré pendant ces 2 années de latence le réveil d'un certain nombre de représentants des sites qui étaient un petit peu bousculés par la démarche de progrès, par la volonté de professionnaliser, par le travail, en quelque sorte, que nous demandions au réseau pour faire en sorte que les sites remarquables du goût ne soient pas simplement une étiquette qu'on s'accroche sur la veste, mais qu'il y ait derrière quelque chose de concret pour pouvoir ensuite communiquer avec le public. Donc là, on a vu des sites qui ont commencé à dire « Oui, mais c'est pas la peine d'embaucher quelqu'un d'autre. Oui, mais la démarche de progrès, c'est du travail, et puis ça coûte. Oui, mais... » Enfin, toutes les bonnes raisons. On est en train, je l'espère, de sortir de tout cela, et on a le 26 octobre une assemblée générale qui devrait relancer, avec l'arrivée d'un nouveau salarié et d'un nouveau programme, tout ce projet qui reste passionnant, et on se donne comme objectif, dans les 5 années à venir, eh bien de mettre en place tous les modules dans tous les sites, de faire en sorte qu'il y ait une association locale dans chaque site, bien sûr, mais je l'ai déjà dit, et puis de faire en sorte qu'il y ait plusieurs guides du goût par site. C'est une formation qui est extrêmement prisée et qui fonctionne bien. Chaque année, il y a de nouveaux guides qui suivent cette formation. Et puis, lorsqu'on aura un peu plus de certitude sur l'engagement des sites sur tout cela, eh bien, on va entamer un plan de communication maîtrisé, ce que l'on n'a pas pu faire jusqu'à présent, faute d'avoir suffisamment de certitude sur l'accueil sur les sites. Donc voilà pour les sites remarquables du goût. J'essaie de ne pas être trop long, j'espère que ça a suscité, enfin, qu'il y aura des questions. Je vais passer tout de suite à ceux... oui. 5 minutes, bien. Donc je vais changer, je vais passer des sites du goût à un site du goût, celui du sel. Et là, on vient de voir que dans un souci de professionnalisation de l'offre, hein, qui était le principal souci des sites, eh bien, il y a un chantier qui, lui, est en train de se terminer, fort heureusement. Alors j'ai mis ça parce que ça m'a un petit peu amusé. Le sel, c'est... Voilà, on retrouve le sel un peu partout, mais c'est un produit très symbolique, le sel, vous le savez. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est très à la mode, les sels, hein, les systèmes d'échange locaux, ou bien les systèmes alimentaires territorialisés. Voilà, on trouve toute une littérature autour de ça. Donc il se trouve que le sel est symbolique, et je trouve que c'est bien de l'avoir pour cela choisi aujourd'hui. J'espère que je vais vous faire saliver, puisque voilà, le vocabulaire autour du sel est absolument inépuisable. Donc, pour reposer vos yeux un petit peu le paysage, voilà les marais salants de Guérande, enfin en tout cas une partie, avec en premier plan les locaux de la coopérative que j'ai eu le plaisir de fonder d'abord avec mes collègues et puis ensuite de diriger pendant près d'une 20aine d'années. Voilà, une saline, pour ceux qui n'ont jamais pu la voir de haut, parce que le territoire des marais salants, quand on met les pieds au sol, ben on ne voit qu'une ligne extrêmement plate, parce qu'il n'y a pas l'ombre d'une... Il n'y a pas l'ombre, en dehors des clochers qu'il y a autour des marais salants, on ne voit pas autre chose. Le sel est un produit aux usages multiples, hein, donc c'est simplement pour fixer un peu les difficultés qu'on a eues à faire exister ce territoire. Ça sert à l'alimentation, à l'agriculture, à l'industrie. Sachez quand même, pour faire vite, que sur 3 millions de tonnes de sel qui sont produites en France et consommées, il y en a près de 2 millions qui vont dans l'industrie chimique. Il y en a 700 000 qui vont sur les routes en hiver, et puis le reste, c'est pour l'alimentation. Mais c'est quand même une portion congrue. Il y a 2 modes de production, qui est artisanal à Guérande, pas seulement à Guérande, il ne faut pas que je fasse preuve de chauvinisme, mais aussi à Noirmoutier, à Ré, sur le littoral atlantique. Voilà. Et puis industriel en Camargue. Voilà, le sel, il en va 2 fois plus sur les routes, hein, chaque année, que dans vos assiettes. Alors, cette histoire de Guérande très vite, avec ça fait quand même 40 ans hein, que ce processus de renaissance du sel de Guérande est engagé. Et aujourd'hui, on en voit, heureusement, l'aboutissement, mais vous verrez que ce n'est pas forcément gagné sur tous les sujets. Donc pourquoi Guérande a failli disparaître ? Bien parce que le sel, qui est absolument indispensable, la consommation du sel a beaucoup changé, hein, puisqu'il était auparavant totalement indispensable pour conserver les aliments, puis avec l'arrivée du froid, eh bien ça a changé. Après, les habitudes alimentaires ont changé, on fait de moins en moins la cuisine, et donc quand on ne fait pas la cuisine, on utilise moins de sel. Et puis surtout, le boom touristique sur la côte a fait en sorte que la plupart des marais salants ont été remplacés par un certain nombre de constructions que vous pouvez voir lorsque vous longez le paysage. Donc voilà, quand je suis arrivé moi dans ces marais salants, c'était à peu près ça. Sur toute la périphérie, on comblait pour ensuite mettre de la terre et construire. Et puis 70-75, eh bien les habitants de la presqu'île de Guérande se sont révoltés contre, je dirais, la dernière phase du réaménagement des marais salants. Il était prévu un plan d'ensemble qui laissait un tout petit noyau de marais salants juste pour l'image touristique, cette fois-ci, de manière extrêmement négative. Et puis, par contre, qui prévoyait de construire quelques dizaines de milliers de logements pour faire en sorte que la station de La Baule puisse se développer de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus sur une surface beaucoup plus grande. Donc, les habitants se sont mobilisés. Il y a 17 associations qui ont ensemble travaillé à faire annuler les projets, sans succès d'ailleurs, jusqu'au Conseil d'État. Et par contre, ensuite, tous ces habitants qui étaient très implantés dans les communes ont au moment des municipales, été extrêmement efficaces pour que les municipalités, elles, ne financent pas les projets. Donc, ce qui avait été perdu devant les tribunaux a été gagné sur le terrain par les habitants. Et puis, un des vecteurs qui me rappelle toujours de bons souvenirs, parce que le principal outil de diffusion de ce problème de disparition des marais salants, c'était une pièce de théâtre qu'on avait écrite et qu'on a jouée avec une équipe de copains à peu près 300 fois, un peu partout, et pas seulement à Guérande. La reconstruction, plus sérieusement, eh bien, ça a commencé par la reconstruction humaine, hein, puisque j'y reviendrai, mais ça a déjà été dit, le site, c'est à la fois un produit, un territoire et des hommes. Eh bien, il a fallu d'abord faire en sorte que le savoir-faire ne disparaisse pas, installer des jeunes qui venaient tous d'autres régions, parce que les producteurs de sel locaux avaient chassé leurs enfants de ce pays où eux avaient de la peine à vivre. Et donc, aujourd'hui, les trois quarts des producteurs de sel à Guérande sont issus d'autres horizons, ce qui est mon cas aussi. Je ne suis pas né à Guérande, même si ça fait 40 ans que j'y travaille. On a créé un centre de formation, donc je passe vite là-dessus. Il était important aussi qu'on capte le savoir-faire. Le savoir-faire des producteurs de sel n'était écrit nulle part. Les porteurs de ce savoir-faire, qui ne l'avaient pas transmis à leurs enfants, étaient tous à un âge avancé, et il fallait se dépêcher de capter ce savoir-faire de manière à le transmettre. Donc aujourd'hui, il y a, depuis 1979, on a formé en moyenne 10 producteurs par an, on en a installé un peu plus par an, et aujourd'hui, les producteurs sont d'une moyenne d'âge de 41 ans, je crois, et la profession est reconstruite, mais il aura fallu pour ça une trentaine d'années. Et puis la partie économique, hein, 87 à 95, ça a été l'essentiel de mon travail, ça a été, en créant une coopérative, de mettre en place une stratégie de reconquête auprès des clients qui utilisent du sel. Donc là encore, je vais vite, mais il faut savoir, et c'est ça qui vous intéresse, je pense, aujourd'hui, que cette stratégie a été faite avec d'autres acteurs du territoire et que la stratégie territoriale a été en même temps faite sur le site. Donc les hommes, c'était la partie formation. Et sur le produit, ça a été la coopérative a été le leader et le moteur. Mais pour le site, il y a eu déjà, à cette époque-là, des consultations avec les communes, avec les autres acteurs du territoire, pour faire en sorte que la relation entre le monde des paludiers et le monde économique lié au tourisme change. De 87 à 95, ça a été pour nous la reconnaissance officielle. Le sel de Guérande, qui était un produit plutôt dévalorisé et considéré comme un produit de mauvaise qualité parce qu'il a une couleur grise, a obtenu une reconnaissance officielle de qualité, ce qui a complètement inversé la perception des clients, hein, pour être très clair. Et puis on a commencé en 92, donc c'est pas si vieux que ça, à faire de la promotion sur le sel, et ça a fort bien fonctionné. Et de 96 à 2005, eh bien, on a pu constater de manière régulière, et ça se poursuit aujourd'hui, une augmentation des surfaces exploitées, un rajeunissement de la profession. Le statut du fermage, c'était une chose curieuse, les producteurs de sel sont des agriculteurs. Les marais salants se vendent et se louent comme de la terre agricole. Ils sont inscrits à la MSA, ils ont tout de l'agriculture, sauf que pendant des années, ils étaient totalement en dehors de tout ce qui est avantage et intérêt en termes de démarche. C'est-à-dire, il n'y avait pas de statut de fermage, il n'y avait pas d'aide à l'installation, il n'y avait pas de dotation aux jeunes agriculteurs. Donc voilà, il a fallu tout remettre ça en place pour que cette profession existe. Aujourd'hui, pour aller vite, parce que les 5 minutes sont épuisées, mais le marché du sel, ça a complètement changé. Je vous ai mis ça parce que je ne croyais même pas que ce soit possible il y a presque 40 ans. En 2009, et pour la première fois, le chiffre d'affaires du sel d'origine, dans tout ce qui est grande et moyenne surface, le chiffre d'affaires a dépassé le chiffre d'affaires du sel blanc. Donc je peux vous assurer qu'on a fêté ça dignement à Guérande l'an passé. Et pour ce qui concerne les sels d'origine, eh bien, vous voyez que Guérande est de loin en tête, mais ce qui n'exclut pas le développement des origines autres, et c'est tant mieux, hein, parce que la diversité, c'est quelque chose qui est agréable, pas seulement pour le marché, mais aussi humainement, hein, de manière à avoir une petite compétition qui entretient la santé. Aujourd'hui, les salines de Guérande, c'est 190 sociétaires sur 320 producteurs de sel dans la presqu'île, 120 qui sont... qui ne font et ne vivent que de ça, à la coopérative, sur les 160 que compte le territoire. Et il y a un potentiel de production de 10 000 tonnes par an, une excellente récolte 2010 qui vient de s'achever avec 18 600 tonnes de gros sel, rien que pour la coopérative. Donc tout va bien. Et puis, sur l'impact sur la dynamique territoriale, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, eh bien, l'ennemi, l'adversaire de départ est devenu partenaire. Et aujourd'hui, avec Terre de Sel qui accueille... Cette année, je crois, 90 000 personnes sont passées à Terre de Sel pendant l'été pour découvrir les marais salants. Eh bien, à la fois la Loire Atlantique, les pays de la Loire, la Bretagne et la gastronomie française dans son ensemble utilisent l'image du sel de Guérande régulièrement dans la communication. Et pour nous, bien entendu, c'est un grand apport économique, mais en même temps une grande satisfaction. Et en ce moment, à Guérande, se déroulent les Saveurs d'Octobre, organisées par le site remarquable du goût de Guérande. Et pendant tout le mois, sur tout le territoire, les hôteliers, les restaurateurs, les producteurs organisent des manifestations quotidiennement avec des cours de cuisine. Enfin, je passe sur le détail, mais si vous allez sur un site internet, vous trouverez tout ça. Terre de Sel avec les... Vous faites Terre de Sel et vous aurez tout sur Terre de Sel. Bon, un petit mot pour terminer. 2006... ça a été un petit peu... On a atteint tous nos objectifs au plan économique, on peut le dire. Mais la génération porteuse, dont j'ai fait partie, est à la recherche d'un nouveau souffle. Il faut passer les témoins. Et la bonne santé de la coopérative, que j'ai eu le plaisir de diriger pendant longtemps, endort un petit peu les initiatives. Quand ça va bien, on a envie de rester au chaud chez soi. Et on oublie qu'il faut préparer l'avenir. Et c'est un petit peu notre difficulté aujourd'hui. Donc l'amélioration de la situation économique a des effets un peu pervers. C'est chacun chez soi et chacun pour soi dans sa renaître. Et puis le foncier a tendance à grimper, ce qui pose de nouveaux problèmes pour l'installation des jeunes, pas seulement sur le terrain, mais pour se loger. Aujourd'hui, acheter un terrain, construire une maison, louer dans la presqu'île guérandaise, c'est réservé à un niveau de revenu qui n'est pas forcément celui des jeunes paludiers qui s'installent. Quelques pistes à creuser pour l'avenir, eh bien, c'est définir une politique d'installation toujours ambitieuse. Là encore, on est dans une phase où on se dit que ce serait bien d'arrêter les installations, parce que sinon on va être plus nombreux à se partager le gâteau, et le gâteau en ce moment il est plutôt bon à manger. Et puis accompagner des paludiers en difficulté, parce que là encore, sur une population de 350 professionnels, y en a qui s'en tirent et d'autres qui ne s'en tirent pas. Donc il faut faire des efforts pour que tout le monde vive bien sur ce territoire. Renforcer la politique qualité, et là je pense qu'on revient plus précisément à notre souci aujourd'hui, c'est trouver les moyens pour que le monde des paludiers, qui est vraiment le symbole de ce territoire, établisse des liens plus forts avec son environnement, pour que la dynamique territoriale ne se referme pas sur le sel et continue à aller vers son environnement, ce qui n'est pas toujours le cas. Des menaces toujours, hein, vous le savez, on est dans un site, on ne pourra jamais s'endormir parce que les pollutions marines, ça existe, la hausse du niveau des mers, ça existe, les craintes de voir le Gulf Stream s'écarter, donc l'eau refroidir. Et on ne parle pas de réchauffement chez nous, on parle plutôt de tempête et de refroidissement. Voilà, et puis pour conclure, j'espère pas avoir trop longtemps dépassé, bah, une bonne nouvelle, hein. Tout à l'heure Bernard Pecker a parlé des AOC. Ben depuis hier, à l'INAO, il y a eu un vote favorable pour accorder au sel de Guérande une indication géographique protégée. Et pour nous, c'est une bonne nouvelle, parce que ça fait longtemps qu'on l'attend. Et en même temps, parce que bien, la notoriété a des avantages, mais des inconvénients, c'est que plus un produit jouit de notoriété, et plus on essaye de se construire des marges un petit peu malhonnêtes en vendant des produits qui ne sont pas du sel de Guérande, tout en utilisant le nom. Donc avec l'indication géographique protégée, on a un outil de défense désormais qui va peut-être nous aider à ne pas perdre ce que l'on a mis 40 ans à construire. Voilà, merci de votre attention.